Avant d'écouter les lectures, nous prions. Père, que ton esprit de lumière, de vérité éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Jésus qui a promis que cet esprit nous conduira dans toute la vérité. Père, que ton esprit de sainteté nous rende obéissant à ta volonté, qu'il nous donne la victoire dans nos combats. Que ton esprit d'amour, de joie, de paix brille en nous comme une flamme où les autres pourront venir se réchauffer. Amen. Nous avons plusieurs lectures. D'abord dans Malachie au chapitre 3, versets 19 à 20.
Je le déclare, moi, le Seigneur de Tsebois, le jour où j'interviendrai arrive, semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront comme paille au feu. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux aux sorties de l'étable.
Vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple, car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Au contraire, acceptant peines et fatigues, nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous l'avons fait non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance.
C'est l'épître, donc c'est des textes du jour. Et maintenant, dans l'évangile, selon Luc, au chapitre 21, les versets 5 à 19.
Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique, avec ses belles pierres et les sculptures offertes à Dieu. Mais Jésus déclara : les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre. De ce que vous voyez là, tout sera renversé. Ils lui demandèrent alors, « Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ?» Jésus répondit, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, « Je suis le Messie, et le temps est arrivé, mais ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. Puis il ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre, et dans différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Soyez endurants. C'est ainsi que vous sauverez vos vies.
Jésus est pour la joie, mais pas pour l'enthousiasme. Ses disciples sont vraiment enthousiasmés quand ils arrivent à Jérusalem par le mont des Oliviers. C'est ce que les touristes aussi découvrent, ceux qui sont venus avec moi à Jérusalem. On est arrivé par le mont des Oliviers et effectivement on est saisi par la beauté de cette ville. Elle était encore bien plus belle à l'époque de Jésus parce qu'il y avait le temple. Et dans l'entrée du temple, il y avait une vigne en or massif, les grappes de raisin étaient en or, le cep et les sarments étaient en or, les feuilles étaient en or, et cette vigne était dans l'entrée du temple. Lorsque le soleil levant dardait ses rayons sur l'entrée orientale, donc du temple, l'entrée du temple est à l'est, alors ça devait être un éblouissement. Et les disciples étaient vraiment éblouis par la beauté de ce temple. Et Jésus répond par des paroles qui sont comme une douche froide quant à ces choses que vous regardez. Le jour viendra où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. Et cette parole est tellement saisissante quand on visite la rue où les Romains ont jeté ces pierres du temple. On la visite aujourd'hui, elle a été mise à jour depuis quelques années. J'avais montré au groupe qui nous accompagnait, vous voyez, ces énormes pierres sont venues de tout là-haut, au-dessus de l'esplanade. Les Romains ont jeté en bas, en contrebas, ces énormes pierres qui faisaient le temple, qui faisaient partie du temple. Et on voit effectivement le dallage de la route en contrebas qui a été fracassé par ces énormes pierres venues d'en haut. Donc aujourd'hui, on voit cette parole de Jésus réalisée. On l'a sous les yeux quand on visite Jérusalem. Nous pouvons nous aussi être enthousiastes devant la beauté de ce qu'a produit le christianisme. En cathédrale, en architecture, en vitraux, en peinture, en œuvre d'art. Oui, mais Jésus ne rebondit pas sur cet enthousiasme. Ce n'est pas la foi. La foi est la seule chose qui demeure, qui ne pourra pas être détruite. C'est Jésus qui la commence en nous, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Il la commence et il la termine. Elle ne peut pas être donc détruite car elle est dans les mains de Jésus. Et pour qu'il puisse la terminer, il nous donne ici des conseils. Au verset 19, il dit « Gagnez votre vie par votre endurance ». On peut le traduire effectivement comme un impératif. D'autres manuscrits disent « Vous gagnerez votre vie ». Par votre endurance. Ou bien, à l'impératif, d'autres manuscrits disent « Gagnez votre vie ». C'est un encouragement à persévérer pour garder notre vie. On ne pourra pas la garder si on n'est pas endurant. Ou le mot « persévérant » employé aussi par les traducteurs, ou bien « patient », tout ça c'est le même mot en grec. « Hypomone », ça veut dire « se tenir en dessous », c'est-à-dire résister à cette pression exercé sur nous. Il y aura des pressions qui vont être exercées sur le peuple de Dieu, des épreuves longues Et ce qui est difficile dans l'épreuve, c'est qu'elle est parfois longue. Et ça commence à prendre la tête. On voudrait se dégager de là. Mais Jésus ne nous dit pas qu'il annulera les épreuves. Mais il nous dit bien que notre joie pourra continuer, même dans l'épreuve, car lui a parlé de joie, même dans ses derniers jours où il voyait approcher la passion et la crucifixion. Et l'apôtre Jacques, encore une fois, je reviens à l'apôtre Jacques, quand nous l'étudions au groupe de prière, je vous ai déjà dit, je le rappelle, qu'il commence son épître par cette exhortation. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 2, estimé comme un sujet de joie entière, les épreuves diverses, variées par lesquelles vous passez. Et l'apôtre Jacques ne dit pas ça comme ça, il explique un petit peu quand même, il dit oui, parce que ces épreuves, elles testent la foi. Votre foi ne peut pas être expérimentée s'il n'y a pas ces épreuves. Donc la foi est là pour être testée, pour être expérimentée. Et quand on a expérimenté une chose, ce n'est plus la même chose qu'avant. Parce que, il dit, cette expérimentation, cette mise à l'épreuve, elle produit à son tour une œuvre parfaite. C'est le mot utilisé par Jacques au verset 3. Cette endurance va produire une œuvre absolument parfaite. Et ça, c'est le but que Jésus vise en permettant, en nous disant de continuer dans l'épreuve, à rester endurant dans la foi. Quand j'ai écouté Daniel nous lire ce texte de Jésus, je me suis dit, mais l'apôtre Paul a vraiment vécu presque la plupart de ces choses annoncées par Jésus. Il a été éprouvé, il a été persécuté, il a été mis en prison par les chefs des synagogues, il a été témoin de Jésus même devant les plus hautes autorités de l'État romain ou de la religion juive. Et chaque fois, il avait une sagesse dans ses réponses, au point que le roi Agrippa ou Félix, je ne sais plus lequel des deux, lui dit stop, parce que s'il avait encore écouté un petit peu l'apôtre Paul, il se convertissait à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, un roi qui se convertit à Jésus-Christ, c'est qui?
C'est l'horreur.
Oui. Donc il a dit stop, puis je t'écouterai une autre fois, voilà. Donc vous voyez, il avait vraiment une des paroles du Seigneur qui était convaincante, alors qu'il était avec lui, il était prisonnier, il était là accusé, et c'était lui qui était jugé, et puis c'est l'autre qui commence à se dire, ben, peut-être c'est moi qui dois me convertir au Seigneur. Jésus donc n'a pas promis que les épreuves seraient évitées, mais il nous a promis que dans ces épreuves on ne sera pas seul. Dans ces épreuves, il sera avec nous, l'Esprit Saint nous donnera les paroles que nous ne pourrons pas trouver par nous-mêmes. Jésus ne nous promet pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Churchill, quand les Anglais ont dû résister à l'armée nazie, il ne leur a pas caché qu'il ne leur promettait pas de belles années devant eux. Il leur a dit, je ne peux vous promettre que du sang et des larmes. Les Anglais ont été d'accord. Sommes-nous d'accord aussi avec Jésus, avec les apôtres? Et pour répondre à cette question, est-ce que nous acceptons ce que Jésus nous annonce? Il faut voir la promesse qu'il y a contenue dedans. Par votre endurance, vous sauverez vos âmes, vous sauverez vos vies. Jésus n'a pas que promis des choses, il les a vécues devant nous. Les apôtres, comme l'apôtre Jacques, ne nous ont pas que promis les choses, ils les ont vraiment vécues eux-mêmes. Et ils ont reçu vraiment le secours de Dieu, et on peut voir dans leur vie que ce qu'ils disent, c'est du vécu. Il y a dans notre texte, presque à deux versets de distance, deux affirmations qui sont contradictoires. Au verset 16, Jésus dit « Ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous ». Et au verset 18, il nous dit « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Il n'y a pas contradiction entre ces deux versets. Comment ça se fait que Jésus dit des choses contradictoires? Eh bien, parce que lui les a vécues. Et c'est vérité en lui. Et si c'est vérité en lui, ce sera aussi vérité en nous. Nous voyons Jésus qui a été couronné d'épines sur la croix. Cette couronne d'épines, vous savez, c'était pas une couronne douce, hein, elle est légère. Hein. Ça a dû vraiment lui détruire pas mal de cheveux. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17, Jean, il voit le ressuscité avec ses cheveux. Et il dit, c'était beau. Son visage et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Je ne sais pas ce que c'est, la laine blanche. Mais ça devait être très tellement beau, puisqu'il le compare à quelque chose de très beau qu'il a déjà vu. Ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Aucun de ses cheveux ne s'est perdu. Il a été crucifié, mais il est glorifié. Dans la puissance de l'Esprit, Jésus a été gardé. Et il sait à l'avance que cette contradiction qu'il annonce, c'est lui-même qui va nous la mettre sous les yeux pour que nous ayons confiance. Confiance qu'en toute situation, et même si on est mis à mort, quelques-uns seront mis à mort, eh bien on sera gardé. Aucun des cheveux de notre tête ne sera touché. Il nous promet d'être en toutes circonstances pour nous une source de joie, une source de joie pleine et entière. Il ne nous promet pas d'enlever les épreuves, il nous promet une sécurité. Une sécurité parce que lui est avec nous, il est en nous. Vous voyez dans le récit de la tempête, lui il dormait. Pour lui c'était la sécurité même dans la tempête. Les disciples ont paniqué, mais Jésus dormait. C'était la sécurité. Là où est Jésus, c'est la sécurité. Il ne nous promet pas de changer la situation, mais il nous promet d'être là. Il nous promet d'être en nous et nous en lui. Si nous endurons l'épreuve, si nous restons endurants, si nous persévérons, vous savez, les Juifs nous donnent l'exemple. Parce que là, ils ont le mauvais rôle dans le discours de Jésus, car ils ont persécuté les premiers chrétiens. Les premiers Juifs croyant Jésus étaient persécutés par d'autres Juifs. Pas par tous les Juifs, mais par certains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut donc aussi montrer des exemples positifs de Juifs qui, eux, ont résisté aussi. Parce qu'ils avaient la Torah, la parole de Dieu. Ils ont préféré affronter la mort. C'était déjà avant Jésus même. Sous l'époque des Séleucides, c'était les Grecs qui gouvernaient pendant deux siècles la Judée. Et ça a pris comme ça au roi des Grecs, Antiochus IV et Antiochus Épiphane, hein, il s'appelait. Ça lui a pris d'interdire la Bible, interdire la Torah. Si vous étiez surpris avec ce livre dans la terre de Judée, à Jérusalem, avec ce livre en votre possession, vous étiez mis à mort, tout simplement. Alors, il y avait un rabbin qui lisait quand même la Torah. Ses disciples lui ont demandé, tu n'as pas peur du décret qui est apparu. Et il a dit à ses disciples, vous ressemblez à quelqu'un qui conseillerait à un poisson de sortir dans l'eau, de sortir de l'eau, sous prétexte qu'il y a danger dans l'eau. Mais un poisson qui sortirait de l'eau pour se mettre en sécurité sur la berge, il sera encore bien plus en danger. Eh bien, la Torah, la parole de Dieu, c'est notre élément, c'est l'eau où nous vivons, dans laquelle nous vivons. Et si vous me demandez de sortir de l'élément où je trouve ma vie, je serai encore bien plus en danger. Eh bien, frères et sœurs, prenons exemple sur ce qu'a dit ce rabbin. Si nous voulons sortir du Seigneur Jésus-Christ, vivre notre vie en dehors de lui, quel danger nous courons ? Mais c'est de la folie pure ! Comme si un poisson serait plus en sécurité en dehors de l'eau.
Jésus est l'eau dans laquelle nous vivons. C'est pour ça que nous sommes baptisés dans de l'eau. Et nous sortons de l'eau, mais de la vie de Jésus en nous. La vie du Christ dans laquelle notre vie va s'épanouir. J'ai un autre exemple, toujours à partir de ce qu'ont vécu les Juifs. C'est là, s'il est plus récent, cet exemple. C'est pendant la dernière guerre. Vous savez qu'au début de la guerre, les nazis ont brûlé pas mal de synagogues. Donc dans une de ces villes, ils avaient brûlé la synagogue. Il n'y en avait plus pendant toute la guerre. Elle était en cendres. Il y avait une place vide avec des cendres. Et à la fin de la guerre, les alliés ont bombardé des villes allemandes, parfois sans aucune raison militaire, mais c'était vraiment pour tuer, pour détruire l'Allemagne. Et il y a des villes entières ont brûlé comme ça sous les bombardements. Et dans une de ces villes, les gens qui fuyaient le feu, fuyaient l'incendie de leur maison, mais quand ils sortaient dehors, dans la rue, les immeubles en flammes s'effondraient sur eux, il n'y avait pas de place, il n'y avait aucun endroit pour se réfugier. Donc ils ont tous péri brûlés, sauf les quelques habitants qui ont pu aller sur cette place de la synagogue brûlée déjà, des années auparavant. Là, il y avait un petit espace où on a pu survivre. Eh bien, ça, c'est une belle parabole pour nous. Nous devons, dans ce monde en feu, il y a en ce moment vraiment en feu, il y a un feu qui brûle dans ce monde, qui détruit le monde entier. L'apôtre Jacques nous le dit, ce feu vient de la langue. Il vient de la langue. C'est marqué dans Jacques, chapitre 3, verset 6. Il détruit l'ensemble du monde créé. C'est un feu qui sort tout droit de l'enfer. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a tellement de calomnies, tellement de fausses informations, tellement de rumeurs, tellement de paroles de haine, de racisme, de mensonges. Il y a tellement de choses qui ne sont pas vraies, tellement de choses horribles, tellement de choses qui détruisent l'âme humaine, qui sont colportées par les médias, que ce soit Internet, la télévision, les images de la télévision, que ce soit dans les iPod, iPhone, que ce soit à la radio, ce n'est que des paroles de calomnie, des paroles qui détruisent les êtres humains. Et ce feu vient tout droit de l'enfer et nous n'avons pas à nous associer à ce feu. Donc si nous voulons échapper au feu qui est en train d'embraser l'ensemble du monde créé, d'après l'apôtre Jacques lui-même, donc ça, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Eh bien, il nous faut être brûlés d'abord par le feu de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit-Saint était venu sous forme de feu sur les apôtres à Pentecôte dans Actes 2 et la forme d'une langue de feu justement pour que notre langue soit changée, que nos paroles soient des paroles qui édifient et non pas des paroles qui détruisent et qui appellent à détruire les autres. Vous savez que, toujours en parlant du feu, il y a eu au mois de septembre, donc il y a 3 mois, 218 bâtiments ou églises chrétiennes qui ont été brûlés en Égypte en quelques jours. 218, le chiffre est très précis, on peut vous donner les détails de chaque bâtiment, le chiffre est confirmé par l'œuvre d'Orient. Vient de l'œuvre d'Orient confirmée par les autorités religieuses égyptiennes. On ne parle là que des bâtiments, parce qu'il y a d'autres biens des chrétiens qui ont été détruits. Comment est-ce que les chrétiens coptes ont réagi? Les Égyptiens maintenant sont étonnés comment ils ont réagi. Il n'y a pas eu de parole appelant à la vengeance. Et si bien qu'un Égyptien a pu écrire, si les Coptes s'étaient comportés comme on aurait pu s'y attendre, aujourd'hui, l'Égypte serait à feu et à sang. Donc ils commencent à réfléchir à l'amour de Jésus qui est dans ces chrétiens. Ces chrétiens ont une foi fervente en Jésus. Une fois vu une vidéo sur YouTube, c'était des milliers de Coptes dans un endroit, dans le désert, dans la nature, s'étaient réunis pour, pendant plus de 24 heures, chanter le nom de Jésus, simplement le nom de Jésus, rien d'autre. Tellement ils ont de l'amour pour Jésus. Nous avons entendu une parole forte pendant cette sainte scène. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et c'est parce qu'il nous a aimés que nous sommes maintenant fils de Dieu. Jésus nous a aimés au cœur même de ce feu qui brûlait déjà à son époque, puisque lui aussi a été condamné par faux témoignages, était condamné par des calomnies. C'est comme ça qu'on a réussi à le faire condamner à mort, en trafiquant les paroles, en pervertissant ce qu'il disait. Mais il est ressuscité, sa parole est vraie, elle ne détruit pas, elle ne consume pas, sauf d'un autre feu que celui qui brûle dans ce monde, c'est le feu de l'amour de Dieu. Avec Jésus, nos vies sont déjà passées dans d'autres mains que les nôtres. Et ces mains, ce sont les mains de Jésus. Elles sont percées, mais elles protègent efficacement. Voyez cette contradiction dans les paroles de Jésus. Aucun cheveu de votre tête ne sera perdu. Et en même temps, il nous dit « quelques-uns d'entre vous seront mis à mort ». Cette contradiction, nous l'avons aussi dans le texte de Malachie que Yvan nous a lu. Ce texte nous dit que le jour du Seigneur vient comme un four brûlant, consumera tous les méchants, depuis la racine jusqu'aux feuilles. Il n'y aura plus rien du tout qui restera. Mais les justes, ceux qui ont accueilli déjà l'amour de Dieu, qui ont persévéré, enduré dans cet amour, même dans les épreuves, eh bien, ils accueilleront ce jour comme un soleil qui guérit. Contradiction, le feu consume les uns, mais sauve les autres. C'est le feu de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus a été consumé jusqu'au dernier degré par le jugement de Dieu, de la racine jusqu'aux feuilles. Mais à cause de ce jugement, si nous entrons dans ce jugement, pour nous, sur la croix, ça devient le feu de l'amour de Dieu. Il ne faut pas attendre pour se soumettre à ce jugement et recevoir cet amour. La décision se fait aujourd'hui. Dans le texte que Daniel nous a lu de Thessaloniciens, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire avec les autres textes, on nous dit de travailler de nos mains. Ah, bon. Alors, il faut croire qu'il y avait des chrétiens qui aimaient trop parler de la fin du monde, qui aimaient les paroles, qui aimaient bavarder, et qui, sous prétexte que le Seigneur est proche, négligeaient ce qui doit faire notre vie quotidienne, c'est de gagner notre pain. Ça fait partie de la persévérance aussi. Parfois c'est très concret, et l'apôtre Paul nous le rappelle, c'est très concret, endurer pour sauver nos âmes, ça veut dire aussi faire notre travail quotidien dans la fidélité et dans la simplicité. Amen.